Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Vous êtes dans la troisième édition d'Acide, l'émission qui tente de dissoudre le cliché qui colle à la peau de l'art contemporain. Rien que ça. Au programme ce soir, toujours la même chose, je vous parlerai de société et de culture à travers une chronique. J'avais décidé de faire une revue de presse, mais en fait ce sera une chronique. Quant à Quentin, il reviendra sur ce qu'il a vu comme exposition ce mois-ci. D'ailleurs, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Quentin ?
Alors, je vous parlerai de la Normandie et d'un espace en particulier où je n'avais encore jamais mis les pieds.
On recevra en deuxième partie d'émission sur notre plateau Isaac Grange, illustrateur tourangeau, pour une interview sur son travail et sur la condition de dessinateur en France. On démarre donc tout de suite avec ma chronique du mois. J'ai feuilleté une quantité astronomique de journaux, qu'ils soient mensuels, quotidiens ou hebdomadaires, pour essayer de trouver soit des articles qui parlent de politique culturelle ou soit d'expositions en tout genre. Je dois vous avouer que ce ne fut pas très fructueux. En effet, les élections législatives et les Jeux Olympiques ont éclipsé pratiquement l'intégralité des autres sujets journalistiques. Et tout ça m'a amené à me poser une question. Quelle est la place de la culture et des musées pendant les Jeux Olympiques ? Depuis une semaine, depuis la mise en place du périmètre de sécurité autour des installations olympiques, nombreux sont les témoignages traduisant le désarroi des commerçants et des restaurateurs face à la baisse de fréquentation de leur commerce, alors même que l'événement devait aboutir à l'effet inverse. Et il y a aussi la complexité pour les visiteurs et les touristes de circuler librement dans la capitale. Donc qu'en est-il des institutions culturelles parisiennes ? Seront-elles délaissées ? Quelles sont les contraintes olympiques pour accéder au Centre d'art et au Musée de Paris ? J'ai effectué mes petites recherches. Si vous voulez faire une virée à Paris pour flâner dans les musées, un conseil, flânez ailleurs. Flânez dans une autre ville, flânez ailleurs en France, n'allez pas à Paris. Dans un premier temps pour le ticket de métro, qui est passé à 4 euros. Mais c'est surtout qu'il vous faudra bien vérifier quels espaces sont ouverts pour quel jour et à quelle heure. Par exemple, pour la cérémonie d'ouverture vendredi, déjà vendredi, étant donné que les bords de Seine seront réquisitionnés pour l'occasion, le musée d'art moderne de Paris, qui n'est pas du tout d'ailleurs à côté des berges de Seine, mais bon, c'est pas grave, Carnavalet, le palais Galliera, le Petit Palais, Cernucci, le Louvre et bien d'autres musées seront fermés. Autre fait exceptionnel, si vous voulez visiter le palais de Tokyo, il sera totalement fermé pendant la période estivale en raison de son emplacement place du Trocadéro, qui deviendra les gradins pour les compétitions de triathlon, d'athlétisme et des 10 km de nage en eau libre, d'après le site officiel de Paris 2024. En tant que piéton, bien sûr, si vous voulez aller à Paris, vous aurez un accès libre aux alentours des musées et dans toute la ville, et donc pas besoin du pass-jeu qu'ils ont mis en place pour l'occasion. Mais faut-il attendre à un changement de fréquentation des musées lors des JO ? Dans un rapport de l'OTCP, donc l'Office de tourisme et des congrès de Paris, elle table sur environ 15,1 millions de visiteurs cumulés durant la période olympique et paralympique. Néanmoins, les profils des visiteurs attendus n'est sans doute pas le public qui voudra pratiquer une autre activité culturelle pendant son voyage, comme le démontrent les chiffres de Londres en 2012, où une baisse significative de fréquentation des espaces accueillants des expositions avait été enregistrée. Dans une enquête menée par Marie Delaplace et Alexandra Chaffard, elle explique que la littérature sur cette question montre que les JO ne conduisent pas toujours à une expansion du tourisme en raison d'effets d'éviction et de substitution. Dans le premier cas, l'annonce de l'ampleur de l'événement et la congestion anticipée découragent les visiteurs de loisirs et les professionnels de venir dans la ville pendant cette période. Dans le second, les dépenses dans les principaux sites touristiques sont remplacées par des dépenses sur les sites des JO, limitant les retombées pour l'économie locale. Elles vont même encore plus loin dans leur réflexion. Les touristes qui sont essentiellement intéressés par les attributs touristiques de Paris considèrent que les Jeux sont comme une externalité négative, réduisant leur plaisir de visiter la ville. Et cela se confirme dans les conversations que nous, Français, on peut avoir avec nos proches. Les JO sont sans doute devenus un repoussoir pour monter dans la capitale. C'est quand même une grosse coquille, quand même, étant donné que les touristes français représenteront, toujours d'après l'OTCP, environ 53% des visiteurs. Donc changeons d'air, partons loin de la capitale. Je te laisse le micro, Quentin.
Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène donc en Normandie, à Caen plus précisément. J'ai récemment eu l'opportunité de m'y rendre pour un festival et même si j'y suis déjà allé, c'est au FRAC Normandie Caen que je n'avais encore jamais mis les pieds. Ce fonds régional d'art contemporain est situé en centre-ville, non loin de la mairie. Et pour rappel, les FRAC sont des collections publiques d'art contemporain créées en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture sous François Mitterrand, dans le cadre de la politique de décentralisation mise en place par l'État avec les nouveaux conseils régionaux, pour permettre à l'art d'aujourd'hui d'être présent dans chaque région de France. Il en existe 23, disséminés un peu partout en France, véritable modèle de diffusion de l'art contemporain et d'ancrage territorial, à l'image du FRAC Normandie Caen qui, depuis 1983, diffuse au prix d'un large public les 1200 œuvres de sa collection, au niveau régional, national et international. Ici, il occupe l'ancien couvent des sœurs visitandines, reconverti au XVIIIe siècle en caserne militaire. Bâtiment patrimonial de 1600 mètres carrés, rénové par l'architecte Rudy Ricciotti en 2019. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. On lui doit notamment le département des arts de l'islam du musée du Louvre, terminé en 2012, ou encore le MUCEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, à Marseille, terminé en 2013. Alors pour Caen, il a choisi de sublimer l'existant tout en jouant au maximum avec les lumières naturelles, un dialogue entre les siècles, et pour reprendre les mots de l'architecte, le résultat s'apprécie dans l'équilibre sensible entre les nuances de gris, celui de la pierre, des menuiseries en bois lazuré, qui ainsi disparaissent, l'ardoise qui offre de nombreux effets, notamment celui du soleil après la pluie, l'attention portée aux actes de l'artisan, tels que la taille de pierre, l'enduit à chaud, la charpente, l'ardoise, le plomb, est en parfaite cohérence avec l'utilisation de procédés récents, tels les parois coupe-feu vitrées de grande hauteur à l'intérieur. Le FRAC Normandie Caen s'attache particulièrement au partage de la connaissance en art contemporain par de multiples propositions associées aux expositions. Visites accompagnées, conférences d'histoire de l'art, rencontres avec des artistes, ateliers de pratique artistique et accès à un centre de documentation. Il est intéressant de noter que l'accès aux expositions, toutes temporaires, est complètement gratuit. Et jusqu'en décembre, on peut découvrir l'exposition I'm Here de l'artiste néerlandaise Lily van der Stoker dans la grande salle. C'est un ensemble de grandes peintures murales agrémentées de mobilier qui mettent en valeur des thèmes universels comme la famille, le sens, l'existence, ainsi que d'autres qui ont été traditionnellement tenus à distance de l'univers de l'art sérieux, comme le décoratif ou les problèmes de plomberie. L'artiste cherche la beauté dans les choses ordinaires, y compris celles qui sont laides. Et la joie, le bien-être et tout ce qui peut contrarier ses états font partie de ses sujets de prédilection. Elle dit de son travail qu'il est un art difficile mais facile d'accès. Ce qu'on pourrait définir comme un manque de sérieux est en fait une position militante et qui va bien au-delà de l'ironie. Elle se définit comme une artiste pop, conceptuelle et féministe. Elle assume outrageusement dans son art des clichés généralement associés à la féminité, le rose, les petites fleurs, les ornements, la déco, qu'elle exacerbe, pour mieux revendiquer une différence. Il y a une dimension pop dans son travail, ça va de soi. En quoi est-elle une artiste conceptuelle ? Formellement, l'art conceptuel adoptait une sorte d'esthétique de bureau, des textes tapés à la machine, des photocopies, des photos documentant une action ou une réalité sociologique. Lily van der Stoker utilise beaucoup les mots dans son art, mais les textes sont écrits à main levée. Elle décortique les préjugés de genre, interroge le stéréotype de la féminité, mais aussi l'économie de l'art et le quotidien de l'existence d'un artiste. L'œuvre « Ha, it doesn't mean anything » de 2008, recréée pour le lieu, occupe une place centrale dans l'exposition. Composée de peintures acryliques à même le mur, d'objets divers, en bois et d'un tapis en laine, c'est une des œuvres préférées de l'artiste. Les couleurs sont vives, rose fluorescent, jaune, vert, bleu clair. On y voit des fleurs stylisées, un symbole d'optimisme et de positivité, dessinées de manière enfantine, tout comme les fioritures entourant les peintures. Des placards sont fixés sur la peinture et s'ouvrent comme une sorte de calendrier de l'Avent. Des tapis et des chaises contribuent à faire sortir la composition des deux dimensions de la peinture en investissant l'espace réel. L'œuvre est douée de la parole. Sur le mur, en bas à droite, en petit, on peut lire « Ha, it doesn't mean anything », le titre, comme si l'œuvre commentait sa propre condition. « Ha » en néerlandais est une expression pour exprimer la joie. On pourrait traduire le titre par quelque chose comme « Chouette, ça ne veut rien dire » ou encore « Super, ça ne signifie strictement rien ». L'œuvre prétend prendre du plaisir à ne rien vouloir dire. Derrière son aspect exubérant et joyeux, la création soulève donc une question complexe, qui est celle du sens de l'art et des choses en général. On attend plutôt de l'art qu'il fasse sens, qu'il soit justifié, légitimée par une signification supérieure. En elles-mêmes, les fleurs n'ont pas de sens, pas plus que les couleurs ou un placard. Comme l'explique l'artiste elle-même, la beauté et la laideur se dissolvent l'une dans l'autre dans cette pièce. En tant que visiteur, vous êtes rassuré et détendu de pouvoir regarder cet art sans vous soucier de rechercher du sens. Donc ce qui reste est l'amusement lié au fait de regarder l'abondance exubérante d'éléments visuels qui n'ont pas de sens. Questionner la signification, c'est questionner l'existence. Mais ici, l'œuvre d'art ignore tout de ce questionnement. Et cette pièce massive se contente d'exister simplement dans ce lieu et sur ce mur. C'est dans un musée, donc c'est de l'art. Un peu plus loin est visible une autre exposition, Soleil Noir, de l'artiste Maxime Verdier. Nous sommes dans une petite salle et gravite autour de nous un ensemble de créations qui nous racontent une ou des histoires, personnelles ou collectives, le temps d'une éclipse. Nous sommes face à des compositions colorées, inspirées de son quotidien. Ce sont des petits mondes dont l'artiste demeure le principal protagoniste. Dessins et maquettes transposent ses pensées les plus profondes, entre rêves et cauchemars, souvenirs d'enfance et sorties entre amis. Des effets d'échelle associés à des figures tronquées ou hybridées donnent lieu à des récits visuels étonnants. Une part d'obscurité et d'inquiétude se dégage de cette exposition. Caen, c'est une ville au riche passé historique, patrimoine culturel important, qui regorge de trésors au détour des ruelles. Surnommée la ville aux 100 clochers, vous constaterez rapidement, si vous y allez, le nombre d'églises qu'elle renferme. Abbayes, églises et abbatiales, les clochers font partie du décor, et à l'intérieur, le style gothique se mêle souvent à celui de la Renaissance. Je vous conseille fortement d'aller y faire un tour.
Merci Quentin. Je vous propose une petite pause musicale avant l'interview d'Isa Grange sur le plateau d'Acide. On va écouter l'un des architectes du courant disco dans les années 70, repris notamment par les Daft Punk, et mis à l'honneur dans la nouvelle mini-série Arte, la vie de Samuel, allez la voir. Il s'agit bien sûr de Giorgio Moroder avec son morceau Chase. You. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 FM pour la deuxième partie de l'émission Acide. Vous venez d'écouter Chase du géant du disco Giorgio Moroder. Nous accueillons sur le plateau Isaac Grange, dessinateur et illustrateur tourangeau. Bonjour Isaac, comment tu vas ?
Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Ça va, ça va bien, merci.
Alors moi j'ai une première question, Isaac. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta formation initiale, académique ? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver jusque-là ?
Alors pour parler de manière plus générale, je pense que pour être dessinateur, illustrateur ou auteur de bande dessinée, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une formation académique. Moi j'ai fait un parcours entre guillemets classique, puisque ça fait un petit moment que je veux faire ça, donc j'ai commencé dès le lycée à me spécialiser dans un bac art appliqué, STD2A, donc qui est spécialisé plutôt dans le design. Donc c'était une façon de m'orienter plus rapidement vers le parcours type en lien avec l'art. Et ensuite j'ai réalisé une prépa classique pour me mettre à niveau sur les techniques de peinture, de dessin, plus académique pour le coup. Et ensuite, j'ai obtenu un DNA à l'École des Beaux-Arts, donc quelque chose de parcours classique toujours, mais pas forcément à voir avec toutes les personnes qui veulent faire du figuratif ou de l'illustratif. Mais ça permet d'apprendre pas mal de choses autres aussi.
J'imagine bien. Est-ce que tu te souviens quand tu as commencé à dessiner ? Est-ce que c'est vraiment depuis tout petit ? C'est quelque chose qui te suivait depuis longtemps ou quelque chose qui est venu un peu plus tard ?
Je pense que ouais, c'est quelque chose qui est là depuis un peu le début. Je me rappelle dessiner depuis la primaire, faire des petites histoires, etc. Il y a eu quand même une période où j'ai un peu stoppé, plutôt à l'arrivée au collège, début de l'adolescence, où là je voulais plutôt faire de la musique, avoir plutôt un groupe, etc., où j'ai délaissé le dessin, et puis c'est revenu plutôt ouais, vers la fin collège, où là ça y est, j'ai pas lâché l'idée depuis, donc ouais, ça fait un petit moment, mais... Je pense que ouais, j'en ai toujours un petit peu fait. Ouais.
Ok. Et quand tu parles de musique, du coup, tu te dirigeais vers quel instrument ?
Alors, j'ai plutôt commencé par la guitare. Okay. Et puis après, j'ai eu une période où je me suis un petit peu lâché. J'ai voulu tout faire en même temps. Et c'est ce qui m'a amené à arrêter aussi la musique, où j'ai voulu faire du ukulélé, de la batterie, de l'harmonica. Et puis, en fait, on ne peut pas tout faire en même temps, surtout quand on apprend tout seul. Donc,
En effet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où tu puises ton inspiration dans tes créations ?
Ouais, alors pour peut-être préciser pour les personnes qui nous écoutent, donc moi je fais plutôt de l'illustration, bande dessinée, avec, on peut le dire quand même, une inspiration manga. Mon inspiration, je pense que je la prends un petit peu partout, puisque c'est quand même ça qui est important, c'est varier les sources et pour faire quelque chose qui tient la route, pas se fermer sur une inspi. Pour les inspi, ça peut être ouais, dans le quotidien, dans les choses que je vis, la musique toujours, les films, séries, etc. Ça permet pas mal de construire une histoire. Et après, bah, dans les lectures, BD, manga ou autres, ça donne pas forcément la réponse à la question. Peut-être que tu voulais des titres précis, non ?
Oui, on va y venir. Mais déjà, de manière générale, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des illustrateurs, créateurs qui t'ont profondément marqué ?
Qui m'ont marqué, ouais, je pense qu'il y a quand même eu un tournant à un moment donné dans... entre guillemets ma carrière, si je peux appeler ça comme ça, c'est la découverte de Naruto quand même à l'adolescence, où là ça m'a vraiment vraiment marqué. Un petit peu avant, il y avait eu vraiment un amour pour Détective Conan, donc toujours dans le manga, et puis sinon après je pense qu'il y a aussi des inspirations passagères, où il y a des moments où, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux, ou même tu tombes sur un album et tu te dis ah putain, mais en fait j'ai envie de faire la même chose. Bon, ça se fait pas de copier, mais ouais, c'est des inspirations qui viennent où ça permet ouais, d'avoir quelque chose de peut-être une direction qui est passagère et qui va avec un petit peu l'ambiance dans laquelle on se sent à ce moment-là. Puis il y a aussi des illustratrices qui m'inspirent pas mal, mais qui sont complètement différents de ce que je peux produire. Je pense notamment à Little Sander, qui est une illustratrice de génie. Et puis sinon, ouais, plus récemment, des auteurs qui sont plutôt, comment dire, en vogue, avec notamment Tatsuki Fujimoto, qui est le dessinateur notamment de Chainsaw Man, et notamment dans son découpage, où là il y a quelque chose de très cinématographique, où là j'essaie quand même de m'inspirer un petit peu, parce que ça permet aussi de voir un petit peu, de prendre du recul sur ce qu'on fait, et de voir ce qu'on peut aussi apporter en plus quand on dessine.
Ok, sachant que donc cette illustratrice dont tu parlais, on peut la retrouver aussi sur les réseaux,
ouais,
sur Instagram,
tout à fait, ouais.
Et même pour toi, pour les auditeurs, du coup, ton pseudo Instagram, c'est Garage Inca.
Oui, exactement, Garage Inca avec un S à garage, c'est pas forcément une histoire de folie, mais c'est juste un anagramme de mon prénom donc, et de mon nom de famille. Donc voilà, si jamais vous souhaitez faire un tour, n'hésitez pas.
C'est parfait. Est-ce que tu as des projets un petit peu en ce moment? Est-ce que tu crées une histoire, un scénario, et comment ça se passe?
Ouais, totalement. Alors pareil, très souvent quand je dis que je fais de la BD, on me demande si je fais et les dessins et l'histoire, etc. Donc ouais, je bosse en solo. Là en ce moment, ouais, j'ai un projet qui est en cours, qui est là, qui trotte en tête depuis quelques années maintenant, que j'ai mis en pause de côté par moment, et puis là je suis pleinement investi dessus. Donc, c'est un projet de série courte qui s'appelle Whisper, et donc là c'est un projet sur lequel, ouais, je dessine. Donc là on en reviendra, enfin je sais pas, je veux pas casser votre chronique et comment dire, et couper un petit peu l'élan, mais moi, c'est un projet sur lequel je travaille, donc je réalise pas mal de pages. Là en ce moment je suis sur une histoire courte dans l'univers du projet. Okay. Et en fait on suit quelques personnages, et on peut faire aussi bien une série qu'une histoire courte, donc là je bosse sur une histoire courte pour ce projet.
Ok, donc dans la création finalement de l'intégralité de l'œuvre Whisper, c'est et le scénario et le dessin, la mise en page des documents, tu fais tout d'un seul coup? T'as déjà une idée en tête du début et de la fin, ou il y a une avancée
Ouais, alors pour ce projet, donc comme je disais, c'est un projet qui est en cours, enfin dans les tuyaux depuis un petit moment, donc j'ai à peu près balisé l'histoire avec le début, la fin, quelques péripéties, et en fait ce qui manque c'est de comment on peut lier tous ces éléments, mais ça permet aussi de pas s'ennuyer, de pas avoir tout en tête depuis plusieurs années, ça permet de découvrir aussi les personnages. Là du coup, comme je suis sur une histoire courte, je commence toujours par l'étape de storyboard, ce qui permet de faire des brouillons de l'histoire, de tâtonner un petit peu, de savoir vers où on va. Et ensuite, je vais travailler par étapes, donc crayonner, ensuite ancrage pour la mise au propre, etc. Et puis, niveau de gris et tramage pour apporter de la texture, des ambiances un petit peu sur les pages finales. Donc voilà, on commence toujours par finir le storyboard, et puis après, on va un petit peu plus en fouillis, en freestyle, puisque j'ai pas fini les crayonnés, mais j'ai quand même commencé l'ancrage. Ça va dépendre de comment je me sens à ce moment-là.
Ok. J'avais aussi une autre question par rapport à tes précédents projets. Je crois que tu as un panel assez large de demandes ou de commandes. Il me semble qu'il y a une cover d'album, il y a aussi une illustration pour une première de couverture d'un livre. Comment ça se passe, ce genre de collaboration? Est-ce que c'est quelque chose de gratifiant forcément, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais, complètement. Alors la plupart du temps, ce sont des personnes qui me font suffisamment confiance pour aussi partager leurs projets. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir accepter au fur et à mesure en fonction des demandes, si ça colle à mon univers, etc. Et donc effectivement, j'ai pu collaborer avec différents artistes, auteurs qui font appel à moi. Et donc j'ai pu réaliser une illustration pour un roman. J'ai pu travailler donc avec un rappeur aussi pour la cover de son projet. Il y a d'autres collaborations comme ça qui sont un peu plus ou moins dans les tuyaux, et ça me fait toujours plaisir, et c'est aussi l'occasion de se mettre pas en difficulté, mais de sortir un petit peu de sa zone de confort, puisqu'il faut aussi avoir son identité dans le résultat, mais aussi respecter l'univers de la personne qui fait appel à soi, à nous, à moi, je suis tout seul en fait. mais en tout cas, ouais, c'est des projets qui sont plutôt gratifiants, et si jamais il y a des gens qui sont chauds, faut pas hésiter, on peut en discuter.
Et toutes ces illustrations, de toute façon, on peut les retrouver sur ton Insta.
Ouais, j'essaie de les publier toujours pour montrer un petit peu l'étendue aussi de ce que je peux faire.
Ouais.
Ok. Moi, j'aimerais aller sur le terrain un peu des coulisses de ta création. On a tendance à mal se représenter qu'est-ce qu'il y a derrière la création De la BD, du manga. Est-ce que toi, tu as envie de ta pratique ?
Alors, j'en vis pas. Si, j'en vis pas. Parfois, ça peut m'arriver d'avoir des petits revenus liés à ça, mais c'est vraiment ponctuel. Je suis obligé d'avoir un boulot à côté, comme je dis souvent pour la blague. Mon travail de saltimbanque, celui de dessinateur, et mon travail, mon vrai travail, celui qui permet de manger et payer le loyer. Je dis ça, c'est vraiment pour blaguer, hein, puisque le travail d'auteur ou d'illustrateur, c'est un vrai métier et qui est assez compliqué. Mais justement, c'est quelque chose qui est assez laborieux, assez long aussi. Et puis, très souvent, les images qu'on produit, les bandes dessinées qu'on produit, elles sont consommées super rapidement. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu assez titanesque comme travail, mais j'en vis pas. Pour le moment, je trouve un équilibre de cette façon-là. J'aimerais bien le faire basculer pour pouvoir me dédier un petit peu plus à la création artistique. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne, mais on verra pour la suite.
Et est-ce que tu t'es rapproché d'éditeurs pour notamment ta mini-série Whisper ?
Ouais, alors rapproché, moi j'ai tenté, eux ils ont laissé la distance de sécurité quand même. Donc souvent quand on veut faire un projet BD, je ne sais pas trop comment ça se passe pour d'autres types d'illustrations, souvent il y a des appels à projets ou ce genre de choses. Pour la BD en tout cas, très souvent on constitue ce qu'on appelle un dossier éditorial qui permet de montrer à quoi peut ressembler le projet pour que l'éditeur se projette et puisse se dire si ça vaut le coup ou non de le publier, puisqu'il y a quand même une sortie d'argent qui est faite par l'éditeur. Et donc c'est un dossier qui regroupe quelques pages, un synopsis de l'histoire, les personnages, et puis montrer quel est le but un petit peu du projet. Donc j'ai envoyé ça à différents éditeurs, j'ai envoyé une première salve, je l'ai déjà fait pour d'anciens projets. Là, pour Whisper, je l'ai fait, je crois que c'était en fin d'année dernière. Les réponses se font toujours attendre pour la plupart des éditeurs. Il faut savoir qu'ils ne répondent pas toujours. Ils reçoivent pas mal de projets aussi. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux, notamment en convention ou ce genre de choses, avec des retours qui sont pour le coup directs. Donc comme ça, ça permet de savoir aussi si on va dans le bon sens ou quoi. Les retours ne sont pas toujours positifs, mais ils permettent quand même de s'améliorer. Et donc là, j'attends encore des réponses, puisque j'ai renvoyé un dossier il y a 2 semaines, toujours sur ce projet, mais on va dire avec une meilleure mise en page, quelque chose de plus clair qui permet de mieux se projeter un petit peu dans l'univers.
Donc en fait, il ne faut pas que tu envoies ta mini-série entière avant de pouvoir être édité.
Alors il y a des éditeurs, je pense que quand c'est des albums uniques qui peuvent fonctionner comme ça, c'est plutôt déconseillé, puisque si jamais il y a des choses à revoir, puisque l'éditeur il a quand même une expertise à apporter, ça fait que faudra sûrement tout recommencer, ou en tout cas une bonne partie. Il y a tout un travail qui c'est jamais à jeter, puisque ça sert pour soi, mais c'est plutôt déconseillé. Vaut mieux donner quelques échantillons qui permettent de voir où on veut aller. Après c'est l'éditeur qui, une fois que le contrat est signé, avec des clauses qui permettent quand même de respecter le travail de l'auteur, c'est mieux, mais ça, c'est difficile à trouver aussi. On peut lancer la production une fois le contrat signé. Ouais.
Ok, bon. Merci beaucoup Isaac d'être venu sur le plateau d'Acide.
Enfin, merci Acide de m'avoir invité.
Donc voilà, c'est la fin de la troisième émission d'Acide. On vous retrouve tous les mois sur le plateau, et on vous dit bonne soirée.